Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique. Mimi Kindou est à la mise en onde, Daniel Tambizoni est là pour nous donner les nouvelles.
Nous venons de l'apprendre, les parlementaires ont rejeté le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires pour l'exercice 2010. Cela concerne le projet 2010 et nous en saurons un peu plus dans deux minutes avec Julien Nyamouyi qui est au siège du Parlement.
Et dans la seconde partie de cette émission, nous recevrons Kacho Karoumé, directeur général de l'Observatoire volcanique de Goma. Il a représenté la RDC au séminaire sur la gestion durable du lac Kivu qui s'est clôturé hier à Gisenyi au Rwanda. Seules les entreprises minières ayant construit une usine de transformation ont droit d'exporter leur concentré de cuivre ou de cobalt.
Cette déclaration est du ministre des Mines lundi devant une centaine d'opérateurs miniers du Katanga réunis dans la salle polyvalente de la mairie de Lubumbashi. Martin Kabelulu a affirmé avoir constaté que plusieurs entreprises minières se livrent à la fraude en déclarant les concentrés alors qu'elles exportent les minerais bruts. Et pour les autres minerais tels que le diamant, la cassitérite, le coltan et l'or, le ministre des Mines dit finit l'exportation de ces matières à l'état brut. Martin Kabelulu a annoncé une série de mesures pour cette nouvelle année 2010.
Les délégués des agents des banques liquidées en 2003 à Goma réclament le paiement de leur décompte final.
Il s'agit des agents de la nouvelle banque de Kinshasa, NBK, la banque de crédit agricole BCA et ceux de la Banque congolaise du commerce extérieur. Pour ces agents, ils n'ont bénéficié que d'un acompte de 19% sur leur décompte en 2006. Les agents réclament la totalité de leur décompte final. Le directeur de la Banque centrale au Nord Kivu a dit qu'à son niveau, il ne possède aucun document relatif à ce dossier. Il a toutefois invité ses agents à la patience, le temps de vérifier que leur dossier est traité au niveau national.
Les activités économiques sont paralysées à Kikwit. Nous sommes dans la province du Bandundu.
C'est suite aux dégâts matériels enregistrés lors de la dernière pluie qui s'est abattue dimanche sur la ville. Les boutiques inondées sont fermées et leurs tenanciers affirment avoir perdu beaucoup de marchandises. La Cohydro, la congolaise des hydrocarbures, semble en être la plus touchée.
Et les ménagères de Mbandaka se plaignent actuellement de la rareté du manioc sur les différents marchés de la ville.
Ceci est une des nombreuses conséquences des tracas des forces de l'ordre et des services de l'État aux différentes barrières érigées le long du fleuve Congo. Les prix de la farine de manioc et de la chikwangue, aliments de base, ont tout simplement doublé en l'espace d'une semaine. Les marchandes accusent pour cela les éléments de la force navale, de la police fluviale et de la Direction générale des migrants de migration, je voulais dire, la DGM.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le projet de loi portant ouverture de crédits provisoires proposé par le gouvernement a été rejeté aujourd'hui par la plénière de l'Assemblée nationale. C'est suite à une motion incidentielle présentée par un député de l'opposition. Julien Nyamouyi, vous êtes au siège du Parlement à Kinshasa. Comment expliquez-vous ce rejet du projet de loi?
Écoutez, il faut dire que le député de l'opposition, Faustin Kambala, estime que le gouvernement et le Parlement se sont acquittés de leurs obligations en adoptant la loi budgétaire dans les délais impartis par la Constitution. Étant donné qu'aucune disposition ne prévoit dans le cas l'examen d'un projet portant ouverture de crédit provisoire, le faire serait donc violer la Constitution d'après lui. Mmh. Il s'agit de l'article 126 de la Constitution, à ces alinéas 5, 6 et 7.
Les parlementaires ont rejeté ce projet. Et comment va se passer la suite?
Disons que la plénière a envoyé la question à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale qui doit revoir la répartition de ces recettes additionnelles telles que prévues au projet de loi budgétaire. Les membres de cette commission doivent en effet ramener les résultats dans les 48 heures. Il faut noter qu'en principe, le même projet sera examiné au Sénat.
Et voilà, le ministre du budget a été conspué par les élus, mais comment réagit-il?
Bon, écoutez, Jocelyne, le ministre du budget, Michel Lokola, estime que le député lui font porter la responsabilité à cause de tous les commentaires qui ont été faits autour de la répartition de ces recettes additionnelles. Ces recettes, disais-je, seraient, selon lui, toutes aléatoires, car leur survenance n'était pas évidente. Déclaration que le ministre de budget a rejetée, estimant qu'il n'a jamais dit cela. Même si la plénière a décidé que l'examen du projet de loi soit examiné par la commission ECOFIN, dans la situation actuelle, aucune disposition constitutionnelle n'est prévue dans les cas où le chef de l'État renvoie le projet de loi financière après l'adoption de deux chambres pour une seconde lecture au début de l'exercice budgétaire.
Affaire à suivre donc. Merci Julien Niamouini pour votre intervention et nous entrons tout de suite dans la seconde partie de Écho d'économie.
Écho reportage.
L'éco-reportage de ce soir s'intéresse à l'activité de cordonnerie à Kinshasa, un reportage signé Blaise Makassi.
Nous sommes sur l'avenue Colonel Ebéa en diagonale avec l'hôtel Memling. C'est le quartier général des cordonniers œuvrant au centre-ville. Les encadreurs sont entourés des apprenants. Ceux-ci désirent voler de leurs propres ailes dans un bref délai. Des clients arrivent à compte-gouttes. Cette lourdeur est liée non seulement aux moyens dérisoires des potentiels clients, mais aussi au fait que ces cordonniers sont régulièrement chassés par la police. Lorsqu'apparaît un client, chaque cordonnier cherche à les séduire pour l'attirer vers lui. Car derrière un client qui se pointe, se cache une occasion nette pour réaliser des recettes. Mais concrètement, que pensent les cordonniers de leur métier? En tout cas, pas grand-chose. L'heure de gloire de la cordonnerie congolaise n'est plus à l'ordre du jour. Ce métier est mis à mal par le faible pouvoir d'achat de la population congolaise en général et kinoise en particulier. Jacques Tchibola est dans le métier depuis des dizaines d'années et évoque la situation dégradante de leur travail.
Pour l'année passée, par rapport à l'élan de Toza, Toza là, il y a bien bien, pour travailler, mouké, il y a des gens qui nous permettent de voir. Toza, mais il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a clients. Les clients de Mingi, les lagi concernant, les paiements, tout. Mais ceux qui sont satisfaits, ils sont satisfaits.
Ces responsables des familles qui ont sous leur encadrement des dizaines d'apprentis manquent aussi le matériel de première nécessité.
Ce qui est en cas de Mingi, ils sont chassés, ils sont chassés souvent. Parce que les lois d'Ambo, quand ils sont bons, ils sont tous les deux dans le bureau. Chaque monde dans le salon a une place à Zali, à se retrouver. Des vies en Guana, c'est souvent. Il y a des gens qui sont ridicules, ils sont faits, mais. C'est pas grave, toujours dans le camarade, dans le sang, dans le sang.
La baisse de fréquentation n'a pas empêché les passionnés de bel art réalisés par les cordonniers ayant leur quartier général à côté de l'hôtel Memling de recourir à leur expertise.
Je préfère ici parce que nous suivons la qualité. C'est un problème de précision, vous savez. Simplement parce qu'ils sont rapides. Il y a la qualité, il y a aussi la précision par rapport à leur travail, quoi.
Le redressement de cette activité dépendra de la relance économique de la République démocratique du Congo. En attendant, les cordonniers subissent la loi du marché chinois qui attire à première vue ceux qui prennent la résolution de se procurer une nouvelle paire de chaussures de marque chinoise dont les prix équivaut à la facture des réparateurs.
L'entretien de ce soir.
Le séminaire sur la gestion durable du lac Kivu s'est clôturé hier à Gisenyi au Rwanda. Une cinquantaine d'experts venus de la RDC, du Rwanda, de certains pays d'Europe et d'Amérique ont pendant 5 jours passé en revue différentes publications sur les questions ayant trait à l'extraction du gaz méthane du lac Kivu, mais aussi aux activités volcaniques. Katcho Karume, directeur général de l'Observatoire volcanique de Goma, a représenté la RDC à ses assises. Il est au micro de Bernardin Nyangui. C'est l'entretien de ce soir.
Monsieur Katcho Karume, on voulait d'abord savoir comment en général le séminaire s'est déroulé.
Bon, disons que le séminaire s'est déroulé d'une bonne manière parce qu'il faut le reconnaître. C'est un séminaire qui a réuni de grands qui ont travaillé sur les lacs en Afrique et sur les lacs Kivu spécialement. Pour moi, c'était un très bon séminaire.
Que vous pouvez encore nous rappeler quels ont été les points sur lesquels vous devriez discuter?
Les points les plus essentiels, c'est par rapport à l'exploitation du gaz méthane sur les lacs Kivu. Et tout le monde est en train de s'interroger qu'est-ce qui se passerait. Et donc, il fallait considérer les actions sur la volcanologie, sur la sismologie et sur l'environnement. C'est-à-dire tout ce qui se passerait dans le cas d'une exploitation intensive de gaz méthane.
Est-ce que ce n'est pas intervenu avec un retard, puisque au moins le gaz méthane a déjà commencé à être exploité? Bon, là, du moins par le Rwanda, mais aussi il y a un projet dans le cadre de la CPGL sur l'exploitation.
Justement, l'exploitation qui est faite pour le moment, c'est vraiment une exploitation à très petite échelle. Et comme vous dites, le projet qui va commencer, c'est à grande échelle, et c'est pourquoi qu'il fallait considérer, avant de commencer cette exploitation à grande échelle, de voir qu'est-ce qui se passerait sur l'environnement, sur la survie des gens qui vivent de la pêche, sur l'équilibre général de ces lacs Kivu.
Alors maintenant, sur ce point-là précis, qu'est-ce que votre séminaire a donné exactement?
Disons qu'il y a des questions auxquelles on peut apporter des réponses aujourd'hui et d'autres questions qui n'ont pas encore de réponses. Évidemment, les avis divergent sur la réinjection de l'eau une fois diluée de ces gaz. Il y a des gens qui pensent qu'il faut réinjecter cette eau diluée au niveau de la biozone, c'est-à-dire au niveau supérieur, de la couche supérieure. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut...
De
ces lacs, parce que les lacs qui voient essentiellement trois couches. Il y a la couche supérieure, là où la vie est possible, c'est la biozone. Il y a la couche intermédiaire où la concentration n'est pas très grande et c'est là qu'on veut réinjecter l'eau diluée. Et il y a maintenant la couche inférieure de très forte concentration en gaz.
Mais pour nous, les profanes en la matière, on voudrait savoir quand même, quand on prélève le gaz, donc on prélève à la fois l'eau et le gaz pour maintenant réinjecter l'eau diluée.
Bon, cela veut dire dans les lacs Kivu, il n'y a pas de couche qu'on peut dire ça, c'est la couche de gaz. Le gaz est dilué dans l'eau. Donc c'est comme si quelqu'un qui mélangeait l'eau avec le gaz dedans. Cela veut dire que quand on va puiser l'eau, c'est avec du gaz. On va juste extraire le gaz et l'eau qui reste, il faudrait réinjecter ça dans les lacs Kivu. C'est en fait ça le principe.
Oui, alors quelles sont d'autres conséquences peut-être écologiques qui peuvent surgir de cette exploitation-là du gaz?
Ah, justement, beaucoup de choses ne sont pas encore connues parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y aura ce qu'on appelle l'explosion des algues ou de phytoplancton. Il y a d'autres qui pensent que les lacs seront en déséquilibre, surtout quand on considère la sismicité de la région et la volcanologie intérieure. Comme vous savez, dans le lac Kivu, il y a des cônes volcaniques. Qu'est-ce qui s'est passé si ces cônes volcaniques entrent en éruption? C'est tout ça ce qu'on était en train de considérer là-bas. Donc, comme vous comprenez, il y a des questions qui sont sans réponse jusqu'à maintenant.
Donc, comme c'était prévu à l'avance, c'est-à-dire que votre séminaire est quand même abouti à la formulation d'autres sujets de recherche?
Absolument. Et c'est ça ce qui était important, c'est-à-dire qu'on a suggéré d'autres sujets de recherche, essentiellement dans le monitoring du lac Kivu et la conservation de l'environnement. En d'autres termes, c'est vrai, c'est bien beau de faire l'exploitation gazeuse parce qu'elle rapporte des revenus, mais il faudrait qu'on les fasse en parallèle avec les autres activités, la pêche, le tourisme, ainsi de suite.
Et la prochaine étape sera quoi?
La prochaine étape, justement, on a dit que on va chercher les moyens pour commencer les études et pour essayer de surveiller, en fin de compte, l'entreprise qui aura la charge de l'exploitation gazeuse.
Et comment on cherche les moyens?
Bon, en écrivant des projets, il y a des bailleurs qui sont intéressés, il y a les deux gouvernements, le fisc congolais et rwandais, qui doivent être impliqués parce que, en fait, les revenus reviendraient à ces deux pays.
Merci, monsieur le directeur.
Je vous en prie, monsieur.
Merci, Bernardin. C'est la fin de Écho d'économie. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous pour un autre numéro de Écho d'économie demain, 18h15, heure de Kinshasa.